La rencontre spirituelle aujourd'hui sera question d'un des écrivains les plus populaires du 20e siècle, qui était un chrétien engagé et qui vendait des millions de livres, Gilbert Cesbron, qui a déjà passé à l'émission Rencontre à la télévision de Radio-Canada, quelques années avant de mourir, à peine même pas 6 ans, 5 ans avant de mourir, et il avait fait sensation à la télévision parce que c'est un homme extrêmement attachant. Je dis c'est un homme extrêmement attachant car je crois qu'il est toujours vivant dans ses livres et qu'il est toujours vivant, pour ma part, dans mon cœur. J'ai eu la chance de le connaître. C'était un homme très engagé auprès des plus pauvres, auprès des plus délaissés, tout en faisant de la radio, étant journaliste. Et il a écrit plus de 40 volumes. Et il a eu une famille, des enfants. Une grande partie de ses livres ont été de best-sellers. Quand on a annoncé sa mort dans les journaux, même dans la presse, dans tous les journaux du monde, je crois, enfin en Occident, on a annoncé sa mort. Gilbert Cesbron meurt à 66 ans. L'écrivain Gilbert Cesbron, dit-on, est décédé hier d'un cancer, en 1979, à son domicile du boulevard Saint-Germain à Paris. Quelques jours avant sa mort, je l'avais rencontré dans la rue. Ce grand homme, mince, détruit par le cancer, un peu tendu, mais toujours souriant et aimable et bon. Et nous avions échangé quelques instants. Il n'avait que 66 ans. L'œuvre de cet écrivain est jalonnée d'œuvres extrêmement importantes. Je vous donne quelques titres, ça vous rappellera bien des souvenirs, j'espère, à la plupart d'entre vous. Chien perdu sans collier, pensez à ces jeunes que l'on voit dans la rue, qui sont comme des chiens perdus sans collier, qui comme s'ils n'avaient plus de maître, plus de parents, plus rien. Et ça a été vendu, ça a plus de 2 millions d'exemplaires. Il avait écrit aussi « Les saints vont en enfer », sur les prêtres ouvriers qui vont dans les endroits les plus difficiles, pour prêcher l'Évangile, c'est-à-dire pour annoncer que Jésus-Christ est venu ici, sur terre, parmi nous, comme l'expression la plus parfaite, la plus merveilleuse de tout l'amour que Dieu nous porte, son Père. Il est lui-même Dieu uni éternellement à son Père dans l'unité de l'Esprit-Saint. Il a aussi écrit ce livre saisissant par son titre et par son contenu, c'est « Il est plus tard que tu ne penses ». C'est là qu'on voit que Gilbert Cesbron est un catholique réfléchi, un homme épris de justice. Il a écrit aussi des contes et des nouvelles, telles que « Ce qu'on appelle vivre »,« Une sentinelle attend l'aurore », aussi c'est très beau, puis il a même publié un recueil de vers intitulé « Torrent », plusieurs pièces de théâtre aussi, dont, vous connaissez ça, il est minuit, Dr. Schweitzer, qui avait été interprété à l'écran, si vous avez vu le film, par Pierre Frenet. Je relevais, il y a, ou disons 2 ans, dans un petit journal publié à Montréal qui s'appelle Le CNV, c'est le journal du catéchuménat de Montréal. La nouvelle baptême d'une adulte qui a été baptisée le 6 avril 1996, à l'âge de la retraite, dit-elle, c'est Louis, elle a été baptisée à cet âge-là. Puis, elle dit à un moment donné, dans son témoignage, que, elle dit par ordre chronologique, je crois que le premier livre qui m'est vraiment saisi fut Charles Plisnier. Charles Plisnier, j'ai déjà consacré une émission à cet homme extraordinaire. Hein? Ça avait beaucoup plu. Le deuxième, Daniel Rops, vous prépare une émission sur lui, avec son très beau livre « Mort ou est ta victoire ». Et le troisième, mais non le moindre, ajoutait-elle, Gilbert Cesbron. J'ai lu son œuvre, presque complètement. Et à mes yeux, sa foi était tellement communicative qu'elle m'a beaucoup aidé à retrouver la mienne. Elle qui n'était pas baptisée. Gilbert Cesbron nous dit, Georges Jourdain, qui célèbre ces jours-ci son 100e anniversaire, ce Georges Jourdain qui est déjà aussi passé à l'émission Rencontre et qui était un journaliste extraordinaire comme Gilbert Cesbron, nous dit que Gilbert Cisbron, au moment de sa mort, nous dit ça en 1979, il est mort à 66 ans, il était mon ami, je ressens son départ comme une blessure et je suis bien d'avis que des centaines de gens ont dû sentir son départ comme une blessure, surtout si jeune, à 66 ans. Et Georges Jourdain ajoute, devant cette disparition qui fixe pour l'éternité l'image de Cisbron, je m'aperçois que sa personne était très complexe et riche. L'Académie française, après lui avoir fait signer pour qu'il présente sa candidature, l'avait par deux fois repoussé. Il voulait pas être membre de l'Académie française, ce Gilbert Cisbron. Pour lui, les faux talents et les écrivains de droite qui peuplent une institution qui a perdu toute raison d'être ne le considéraient pas comme un authentique homme de lettres, disait-il. Et Georges Jourdain les traite d'imbéciles. Depuis l'âge de 6 ans, Gilbert Cisbron, fils d'un grand bourgeois parisien, écrivait des vers, des pièces de théâtre, des romans. Puis les premiers textes qu'il a publiés en 1945 étaient des œuvres d'imagination, qui étaient pleines de fantaisie poétique, hein, et même de tendresse et d'humour, car il y a beaucoup de tendresse dans les œuvres de Gilbert Cisbron. Notre prison est un royaume, qui est un des livres les plus sensationnels. Ça atteint ça au moins 600 000 lecteurs, je crois. Et ça atteint les écoliers des lycées. Ce premier Cisbron, si on peut dire, était une espèce d'héritier de Musset dans un sens. Hein. C'est assez particulier. Cisbron appartenait à la tradition romantique, à celle du 19e siècle dans un sens, qui croyait avoir un message à délivrer pour l'humanité entière, mais c'était un homme de notre siècle en même temps. En 1952, Cisbron a écrit un livre sur les premiers prêtres ouvriers, comme je vous ai dit, là, les saints vont en enfer, mais ça longuement préparé, il a préparé pendant presque 7 ans, si je me souviens bien, qu'il nous avait dit dans une entrevue qu'il nous a donnée à Rencontre, 2 entrevues même. Et ça lui a apporté cela notoriété. En même temps que ça a ouvert un grand débat dans l'Église au sujet des prêtres ouvriers, Cisbron a compris qu'il avait une mission plus importante que ses premiers livres ne le laissaient penser. Il a songé certainement à rendre au roman populaire quoi les lettres de noblesse qu'il mérite. Car c'est bien beau d'atteindre 100 personnes, mais quand on peut en atteindre beaucoup plus et les émouvoir et les saisir et leur faire rencontrer les grandes valeurs, les grandes réalités, et en particulier rencontrer Jésus-Christ, c'est quelque chose. Hein? Il a, on pourrait dire, quitté l'héritage de Musset du début de sa vie pour celui de Hugo. Et là, il est devenu plutôt, je ne dirais pas tonitruant, mais saisissant, grandiose. Cisbron a rencontré le Christ à 20 ans sans l'aide de personne. Il a trouvé dans l'Évangile ce qu'il cherchait. Une réponse aux questions lancinantes que pose aux hommes de cœur l'existence du malheur et du mal. Pourquoi tant de malheur? Pourquoi tant de mal? C'est parce que le Christ n'est pas présent au fond de nos cœurs. Si nous étions tous des chrétiens dévorés par l'amour de Jésus, que de souffrances disparaîtraient. Pas toutes, mais que de souffrances disparaîtraient. La misère du monde était absolument insupportable à Gilbert Cisbron. Ah, il l'a dit et redit. Il n'arrêtait pas de dire ça. Et c'est pour ça qu'il a tant consacré de son temps, non seulement à écrire des livres, mais à puiser au cru de la souffrance où il allait travailler et aider le monde pour pouvoir dire des choses sensées. Il ne pouvait vivre on pourrait pas dire qu'il n'était pas en paix avec lui-même, mais il ne pouvait vivre en paix avec Dieu que lorsqu'il avait récité puis pratiqué les béatitudes sur lesquelles il a écrit ce beau livre « 8 paroles pour l'éternité » publié chez Robert Laffont, dans lequel on trouve un texte sublime sur le suaire de Turin. C'est un passage absolument admirable qui nous fait saisir la grandeur et la beauté de cet objet qu'il aimait particulièrement. Il a écrit évidemment des nouvelles policières, toutes sortes de choses comme ça. Et c'est un écrivain, on peut dire, dont les livres rapportaient chaque année une fortune. Et il a distribué presque toutes pour les pauvres. Il visitait depuis 1947, lui qui est mort en 1979, les malades incurables d'un grand hôpital parisien, puis depuis 7 ans, avant sa mort, les prisonniers. Il a toujours aimé les prisonniers. Et c'est une charge épouvantable souvent que de se soumettre avec joie à de telles tâches. Et c'était un curieux spectacle que de voir Gilbert Cesbron lire des nouvelles policières à des malades, devenus aveugles. Et puis, il traitait les criminels avec une attention très, très courtoise, car c'était un homme vraiment profondément civilisé, raffiné même. Et il se montrait fraternel. C'était sa marque, c'était un frère. Quand on arrivait devant lui, on se sentait saisi, écouté, aimé, et devenu quelqu'un de tout à coup un peu intéressant, alors qu'on pense qu'on n'est rien, puis que personne ne s'intéresse à nous et qu'on est seul. Et c'est très saisissant. Il était très saisissant. Et je crois qu'il s'intéresse encore à nous. Et qu'au du haut du ciel, si le ciel est en haut, mais je crois qu'il est ici parmi nous, eh bien, il sait vraiment continuer son travail et nous dire son message au fond de notre cœur, si on veut bien l'entendre, dans des entrevues qu'il nous a données à rencontre à la télévision de Radio-Canada, aussi bien qu'à La Vie catholique en France. Cette revue, il nous a raconté qu'il ne pouvait passer, lorsqu'il était enfant, devant une caserne, un hôpital ou une prison, sans être bouleversé par la sympathie. Et devenu célèbre et âgé, bien, il passe dans ces lieux de douleur, il passe une partie de sa vie avant de mourir. Gilbert Cesbron a exploité naturellement cette veine qu'il avait redécouverte et où la littérature d'imagination rejoint le peuple, tout le monde. Il aborde les thèmes qui sont communs à tous les hommes, l'enfance inadaptée ou handicapée, à laquelle il s'intéressait énormément, la souffrance qu'apporte avec elle la maladie incurable. Il s'est intéressé aussi à la laideur chez une jeune femme. Il souffrait beaucoup de ça. Il était très beau, lui. Il s'approchait de la laideur parce qu'il savait découvrir derrière la laideur la beauté de l'âme. Il s'occupait de la dégradation imposée à l'enfant dans notre société. Ça le déchirait. Puis la difficulté aussi pour les Africains de s'adapter à notre mode de vie. Puis l'amour chez un séducteur vieillissant qui cherche toujours la satisfaction de ses sens, le désert de ses âmes. Il cherchait aussi la libération de la femme, il s'en est occupé beaucoup. Et il a trouvé pour chacune de ses œuvres romanesques plusieurs centaines de milliers de lecteurs, sinon des millions. Et il se limitait à décrire les épreuves et les douleurs individuelles. Il n'imaginait pas que les structures du monde profane ou même ecclésial puissent être changées, non. Mais il avait, comme il disait, une foi idiote, pleine d'espérance. Et c'est comme ça qu'il est devenu secrétaire général du Secours catholique, qui est l'œuvre la plus répandue, la plus solide, la plus immense de France, pour aider les pauvres et les malheureux et les gens de toutes sortes. Alors, il était secrétaire général pendant des années. Il était partisan de la non-violence, de la liberté, de la démocratie. Il disait-il aussi de l'autosuggestion. Il faut s'autosuggestionner devant le Christ et avec le Christ. Et il voulait pratiquer une espérance, cette espérance que l'on trouve dans le Christ. Ça, il en était un partisan acharné. Au début de son livre « Ce que je crois » paru chez Grasset et que l'on peut encore trouver, je crois, Gilbert Cesbron a mis en exergue une parole de Jean Cocteau qui est très belle. C'est Jean Cocteau qui dit, ça va intéresser les professeurs et les parents par rapport à leurs enfants, « Jeunes hommes avides, croyez-moi, Il n'existe que deux manières de gagner la partie, jouer cœur ou tricher. Tricher est difficile, un tricheur pris et battu. Jouer cœur est simple. Il faut en avoir, voilà tout. Vous vous croyez sans cœur? Vous regardez mal vos cartes. C'est un texte de Jean Cocteau qu'il met en exergue et il dit tout de suite après, début de son livre, « Je n'ai rien apporté de bien neuf à la littérature, je le sais, hormis peut-être un certain frémissement. Je suis moins malin que n'importe qui, moins intelligent que beaucoup, et pas du tout intellectuel. Mais voici ce qui m'est propre, dit Gilbert Sesbron. Tout ce qui arrive aux autres retentit en moi. Il y a 40 ans que cela dure. C'est pourquoi je me permets d'élever la voix. Ce n'est pas tout à fait la mienne, pas seulement la mienne. Ignorant en tout sauf en être, au pluriel, je crois bien que, comme Bernanos, j'ai juré de vous émouvoir. La nausée de vivre ne m'aura jamais saisi que devant la douleur des autres. Cela prouve, sans doute, que j'appartiens au camp des privilégiés. Cela signifie aussi que je suis un homme de douleur. Comme on est blond ou brun, de gauche ou de droite, et c'est affaire de peau, fils d'homme ou fils de femme, on est ou non un homme de douleur. Je me sais pareil à ces petits animaux dont on voit battre le cœur précipitamment. Leur vulnérabilité même atteste leur vie. Il était de bonne taille, cet homme. Moi, il avait bien 6 pieds, comme on dit ici. C'était brun, mais le teint clair. Il était toujours vêtu de façon élégante, mais sobre. Il parlait avec aisance et d'une voix très douce. Oh, douce, saisissante même. Bon, quand j'ai connu, il avait 60 ans. Il était sensible, courageux. Gilbert Sesbron était déchiré par le sort des faibles, comme je vous ai dit, des humiliés, des exploités. Et comme l'un de ses personnages, Antoine de Fonquerny, il a été étudiant à Sciences Po. Il est né à Paris, Gilbert Sesbron, en 1913. Et il a gardé de sa formation à Sciences Po une curiosité très vive pour les problèmes politiques, économiques et sociaux. C'était vraiment un chrétien dans le temps, dans l'espace, là, concret, les pieds à terre. C'était pas un rêveur. Mais depuis des années, ses années universitaires, il a traversé la guerre et l'occupation allemande. Il a rencontré sur son chemin des hommes et des femmes écrasés par la misère matérielle, d'autres aussi désespérés d'être mal aimés ou non aimés. Comme ces enfants dans la rue, que l'on n'adopte pas et que l'on aide si peu. Et on sentait chez lui, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, une grande tendresse et un ardent désir de justice. Et puis l'Évangile, au plein milieu de sa vie, qui s'est découvert à lui encore plus saisissant, et qu'il a médité sans cesse depuis, mais ça l'a invité à voir en chaque créature souffrante le visage de Jésus-Christ. Ils savent lire l'Évangile, découvrir en chaque créature souffrante, le visage de l'Évangile. Il écrivait, on rencontre ici-bas Jésus-Christ. Non, c'est le père Lacordaire, ça. On rencontre ici-bas Jésus-Christ comme on rencontre un autre homme. C'est ce que disait Lacordaire. Mais lui, il aimait pas tellement ça, il préférait le rencontrer chez ceux qui ont faim, qui errent, qui n'ont pas de logis, qui manquent de vêtements, qui sont malades, qui sont opprimés, abandonnés, prisonniers. Son temps le passionne, mais lucide, il distingue dans le temps ce qui grandit l'homme et ce qui le dégrade aussi. Et il pense que pour vivre à hauteur d'homme en Occident, il faut s'aguerrir. Contre quoi? Contre le vertige, Il y a un grand vertige en Occident actuellement qui provoque en nous le tourbillon des visages, des idées, des événements. Par la télévision, les journaux, les revues, etc. Et le harcèlement des informations par la télévision, oui, puis les transistors. Tout ça, ça forme le cadre même de notre existence et c'est notre perte. Gilbert Cisbron constate que le confort n'a pas engendré le bonheur, que la concentration urbaine développe la solitude. Que de gens seuls. Il y a la frénésie des loisirs chez les gens, et surtout l'ennui, l'ennui. D'un bout à l'autre du monde, les architectes répètent, dit-il, à satiété les mêmes constructions monotones. Et puis les valeurs qui paraissent sûres chancellent. On avait des valeurs sûres autrefois, la famille, les enfants, l'amour stable, le travail accompli avec tout notre cœur et tout le reste, Dieu, la prière. Mais la nature est polluée, l'argent, la violence, la volonté de puissance, l'imposture s'en donne à cœur joie. Tiens, je le cite. Les opprimés ne se défendent qu'en opprimant à leur tour. Les humiliés ne trouvent de revanche que dans le mépris. L'ascension unanime de l'humanité dont socialistes et chrétiens rêvent chacun à sa manière se réalise à l'envers, sous nos yeux. Fin de la citation. Puis, il y a la drogue, le suicide aussi, qui ravage une jeunesse incapable de supporter le désert spirituel et qui ravage aussi des gens plus âgés. Puis ça, il en parle beaucoup. Aussi sommes-nous au temps de l'espérance, dit-il. Ce qui ne veut pas dire de l'optimisme béat. Non, non, non. De l'espérance, d'après lui, parce qu'il y a une promesse, avec un P majuscule, et que Dieu est fidèle, oui, Dieu nous est fidèle. Et dans les moments où on a l'impression, comme hier, mon Dieu, on a fait une émission sur Marguerite Bourgeois, pas un téléphone, pas un écho, rien, le désert, la veille aussi, on se dit deux jours de suite, Marc-Alexandre et moi, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent? Mais il faut garder l'espérance, même si on sait que c'est dur. Parce qu'il y a une promesse, et je pense aux prêtres qui sont souvent un peu seuls dans leur paroisse, qui voient les paroissiens diminuer, les évêques tourmentés un peu par le manque de vocation, tourmentés jusqu'au fond de leur cœur. Je pense à tout ça, et mon Dieu, quand on voit les policiers, les pompiers, comment ils se conduisent, etc., c'est inconcevable, hein? Dieu est fidèle. Folie que d'y croire, si l'on veut. Mais pour Cesbron, c'est une folie salvatrice. L'espérance des chrétiens a un visage, c'est Jésus-Christ. Le visage de Jésus-Christ. Qu'il est émouvant, la vue de Gilbert Cesbron, dernière page, de ses fameuses leçons d'abîme. Il dit, je l'ai toujours connu, Jésus-Christ, je ne l'ai pas toujours aimé. J'ai longtemps vécu loin de lui dans un vacarme de paroles, dans une grande naïveté d'orgueil. Or, lequel d'entre nous n'a pas plus ou moins agi comme ça, hein? On a tous tombé là-dedans. On tombe encore. Mais au comble d'une grande douleur, il a retrouvé la sainte face. Et la sainte face du suaire de Turin le fascine. D'accord, il le sait. Il y a eu Pâques. Mais c'est le Christ souffrant qui l'appelle, celui qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui n'en pouvez plus. » Et Dieu a choisi le visage de Jésus pour que nous sachions qui il est. Et Gilbert Cesbron l'explique bien, il faut que notre foi, à partir de la face de douleur, soit un sursaut d'amour par-dessus le doute de l'esprit, par-dessus les démentis incessants que nous oppose le monde. Dans son livre « Mourir étonné », il écrit à un moment donné au sujet du linceul de Turin, de la Sainte Face, il dit « Cette image-ci me le répète, c'est moi, n'ayez pas peur. Moi, si lâche, cette image ne me quitte pas, me donnera le moment venu le courage qu'il faut. Je le crois, je le sais, car non seulement il est celui dont on ne peut en aucun cas avoir peur, mais celui qui fait qu'on n'a plus peur du reste. C'est la peur, toujours elle, qui nous conduit à juger trop vite, prendre nos distances, nos précautions, à ne plus voir Jésus dans l'autre. La peur est le contraire de l'amour. Elle est le triste secret des ambitieux, des vantards, des violents, le triste secret des hommes. Seigneur, délivrez-nous d'abord de la peur. Relevez-vous, n'ayez pas peur, c'est justement ce qu'il dira après la transfiguration à ses trois témoins. Levant alors les yeux, ils ne virent plus personne sinon Jésus seul avec eux. Il y avait ce mystère de la transfiguration. Or voici celui plus déroutant de la défiguration. Mais, si tu n'as jamais vu la beauté au moment de la souffrance, jamais tu n'as vu la beauté, dit Schiller. Si tu ne l'as jamais vu au moment de la victoire, tu ne l'as jamais vu non plus, son visage de Pâques, dont celui-ci n'est que la graine obscure. Oh, voir un jour son visage de Pâques. Or, au lendemain du Vendredi Saint, tout paraissait perdu pour les deux hommes qui marchaient vers Emmaüs, les disciples, et qui n'avaient pas compris qu'il fallait que le Christ souffre pour entrer dans sa gloire. Et soudain, Jésus est avec eux sur le chemin. Hors de lui, pour Cesbron, il n'y a pas d'espérance pour l'homme. Dans son journal sans date, il dit que chaque être doit parvenir à trouver son alliance avec le monde et avec soi-même. Ce qu'il entend par là, c'est ça. Regardez tout autour de vous, dans la rue, le métro, le bus ou le train, le visage des gens, et vous distinguerez de suite ceux qui vivent ou non en alliance avec le monde. Il ajoute, en s'animant, que chacun réalise cette alliance à sa manière, mais que c'est essentiellement par l'amour. Voici ses paroles. « L'amour que nous donnons en nous faisant sortir de nous-mêmes, en nous ouvrant à l'autre, aux autres, nous permet de vivre pleinement. Quand on reste enfermé dans les limites de son moi, on ne peut plus vivre. Quand on ne parle que de ses petites maladies, de ses petits bobos, de ses petits problèmes, on ne peut plus vivre, hein? C'est ça qu'il veut dire. Quand on reste enfermé dans les limites de son moi, on ne peut plus vivre. » Est-ce que c'est pas là le sens profond de toute son œuvre, finalement? Tout ce qu'il a écrit. À propos de l'enfance et de l'adolescence, qui occupe une grande place dans cette œuvre, presque tous ses romans sont peuplés d'enfants. Ils sont les témoins d'intransigeance et de pureté, dit-il. Et Gilbert Cesbron s'oriente tout naturellement sur les relations entre parents et enfants, sur la famille qui lui était extrêmement chère et qui est détruite aujourd'hui dans notre société. Par grands pans, la famille tombe, on la voit tomber autour de nous, c'est terrible. Ces observations, et bien des confidences reçues, l'amènent à penser que beaucoup de pères sont très malheureux, parce qu'ils se rendent compte qu'ils assument mal leur paternité, et que c'est très difficile d'être père aujourd'hui. Avec toutes les influences que l'enfant reçoit de partout, le monde actuel, selon lui, ne ressemble pas à celui de notre enfance. Mais la famille reste irremplaçable, elle est un besoin fondamental qui demeure, c'est son avis. Quand j'ai vu et entendu de jeunes délinquants, dit-il, j'ai mesuré combien ils souffraient d'avoir manqué d'une vraie famille. Bien plus, les adolescents placés en internat de rééducation, lorsqu'ils sont en danger moral dans leur famille, font des fugues pour aller rejoindre les leurs, ne serait-ce que quelques heures, et il ajoute ceci, il y a un mystère de la famille, mystère de sang. Mystère de l'attachement total. Que les révoltes de l'adolescence ne détruisent pas. Aucun enfant ne peut se passer de la famille. Quant à l'influence directe du père et de la mère, eh bien, à partir d'un certain âge, elle ne s'exerce plus par des paroles, mais par la manière de vivre. La manière de vivre. Cesbron prépare alors un roman qui doit avoir pour thème l'enfance dans notre siècle qui l'a mutilée. L'enfance, c'est l'âge, dit-il, où l'on aime sans le savoir, sans calculer, sans prévoir, ni se demander si on nous le rendra. Il avait une méthode de travail très particulière. Il a été vraiment là pour connaître les milieux où se situent ces personnages, comme je vous ai laissé entendre tout à l'heure. Cet homme qui a un travail professionnel à la radio, il a fondé, pour ainsi dire, un poste de radio important. Il en le dirigeait pendant 20 ans, puis ensuite s'est mis à parler sur les ondes, mais il parlait pas de ses livres, hein, jamais, il parlait pas de ses livres. Il voulait pas mêler ça. Mais il écrivait en marchant. C'est curieux, parce qu'il allait à son travail en marchant. C'est ce qui le gardait svelte et énergique. Puis il travaillait le soir chez lui, quand ses enfants étaient couchés. Il veillait tard. Il a passé des nuits dans des internats de jeunes délinquants et des heures dans des cabinets de juges des enfants et de psychiatres avant d'entreprendre Chien perdu sans collier. Gilbert Cesbron a assisté à des réanimations à Claude Bernard pour composer le début de Une abeille contre la vitre. C'est édité, ça, j'ai ça dans une très belle collection, magnifique. C'est des livres de collection, hein, le cercle du nouveau livre. Et il a vécu pendant une semaine avec des presse-ouvriers dans la banlieue parisienne pour évoquer leur mission dans Les saints vont en enfer. C'est un de ses plus grands best-sellers, si on peut dire. Il était impatient, mais il était quand même maître de lui. On sentait toujours une espèce de petite impatience derrière lui, à certains moments du moins, parce que c'était un passionné. Gilbert Cesbron, c'est un des êtres les plus passionnés que j'ai rencontrés dans ma vie. Il pouvait être véhément aussi dans ses entrevues et dans ses conversations, et tout à la fois tendre, et très attentif. Malgré sa beauté et son élégance et tout ça, il était un anti-mondain. Parce qu'il était proche de l'homme de la rue. Gilbert Cesbron croyait, autant qu'on peut l'être, d'une foi de roc. C'était un catholique extraordinaire. Mais son roc, on peut dire, était battu par la tempête. Hein? Il n'était pas dogmatique pour un sou. Il était évangélique à fond, par exemple. C'est pas lui qui se serait attaché à des histoires des rois mages à fond pour défendre ça, les rois mages, pas du tout. Ce qui allait, lui, c'était la foi que l'on doit avoir, même si on est puissant, intellectuel et tout ce que vous voulez, pour s'agenouiller devant un enfant, Jésus, et l'adorer. Croire que le Christ s'est fait enfant et que il est le Fils éternel de Dieu et en vivre, c'est ça qui compte. Tel apparaît Gilbert Cesbron. Tel apparaît-il d'ailleurs à quelqu'un qui l'a interviewé, et ça a fait un volume, c'est Maurice Chavardès. Ce sont des entretiens absolument admirables. C'est publié chez Stock. Ça s'appelle « Conversation avec Maurice Chavardès ». Gilbert Cesbron, « Conversation avec Maurice Chavardès ». Il raconte son itinéraire. Il raconte ses chutes, les difficultés, les découvertes. Et aussi, comme il dit, la lutte impitoyable contre la page blanche. Hein, quand on est écrivain. Un labeur paysan, sillon après sillon, dit-il. Hein? Il se présente semblable aux autres hommes. Il a une épouse, des enfants, un métier, 8 heures par jour dans un bureau, oui. Mais il reconnaît quand même avoir ajouté un livre par année à peu près. Imaginé, écrit, au long de son parcours quotidien. Toujours fait à pied, de son domicile à son lieu de travail, c'est curieux, hein? Et surtout au long de ses veilles. Hein? Il dit « Jamais je n'ai fréquenté les milieux littéraires, ni participé à leurs querelles, il n'aimait pas ça. » Il a donc répondu aux 300 questions de Maurice Chavardès, même à celles qui l'irritaient. Il respecte ainsi, comme il dit, la règle du « je », qu'il n'aimait pas. Alors il parle de ses parents, de son enfance, de sa jeunesse, de la manière dont il a traversé les années de la guerre, de ses activités à la radio, de ses livres, des années passées au secours catholique. Là. Vous pourrez tout lire ça si vous voulez. J'ai pas le temps de tout vous raconter ça, évidemment, dans une petite émission comme celle-ci. Mais il dit aussi ce qu'il pense des événements dont il a été témoin, puis de la politique, sans ménagement pour aucun parti. Car il est tout le contraire d'un partisan. Puis il parle aussi de la presse puis de l'Église, qu'il ne ménage pas nécessairement. Mes racines, c'est ça qu'il déclare, sont bourgeoises. Et les renier à cause de la mode actuelle serait une belle veulerie et d'une belle ingratitude. Et vous savez que c'est de la bourgeoisie que sont venus souvent les réformateurs et les gens qui ont changé le mieux les choses pour aller au cœur des vraies vérités. Parfois, on commis des erreurs quand ils ont voulu faire de l'Évangile un évangile athée et que c'est devenu le communisme. Mais ils ont fait aussi beaucoup de choses, les bourgeois, même en entrant en religion, en devenant jésuites, dominicains, prêtres, évêques, etc. Les bourgeois ont souvent vécu l'Évangile avec beaucoup de grâce et de dans le sens de la vérité. On parle beaucoup contre la bourgeoisie, mais il faut bien lui rendre ça. Moi, je ne suis pas de famille bourgeoise, je suis de famille simple. L'ingratitude, dit-il, n'est pas mon fort. Ensuite, mes racines sont chrétiennes, et enfin, je pense qu'elles sont provinciales. J'ai traîné toute ma vie cette nostalgie de la province, de la campagne, et cette sorte de défiance de Paris, de la ville, de toutes les fausses définitions que Paris a longtemps imposées à la province. Il dit Paris croit être la France, et l'intelligentsia croit qu'elle est Paris. On pourrait dire que Montréal croit qu'elle est le Québec. Eh bien non. La liberté des propos de Gilbert Cesbron sont formidables. Ils sont clairs, percutants, toujours très personnels, dépourvus de démagogie. Il dit à un moment donné, « Et moi, je vais vous demander, au sujet des paroissiens du dimanche, je vais vous demander, cher Chavardès, ce que vous avez contre les paroissiens, les pratiquants des paroisses. Moi, je trouve qu'il y a une démagogie féroce dans la chrétienté contre ceux qu'on appelle les fidèles. Oui, ils sont fidèles, évidemment. » Il vaudrait mieux être fidèle à l'Évangile que de l'être au rite et au folklore catholique, mais ce n'est pas une raison pour ne pas déjà l'être à ce petit folklore et à ce qu'on appelle d'un vilain mot la pratique. Cette défiance, ce ricanement font partie de cette forme de démagogie proprement suicidaire de la chrétienté actuelle. Et écoutez bien ce qu'il va dire, c'était très important. De la même façon, je n'accepte pas qu'on me dise que les paroissiens du dimanche, dont je suis, puis j'y vais tous les jours, moi, les paroissiens du dimanche sont des chrétiens de troisième zone. Un chrétien qui ne pratique pas la messe et les sacrements est un pseudo-chrétien, dit-il. Puis il ajoute, ça c'est très beau, l'Eucharistie, sacrement, qui, à mes yeux, est au-dessus de tous les autres, c'est le mystère des mystères, l'alliance des alliances, et refuser l'Eucharistie, ne pas avoir soif de la messe, soif de la messe, cela ne me paraît en aucun cas une preuve de fidélité, ni à l'Église, bien sûr, mais pas davantage à l'Évangile ni à Jésus-Christ. Jésus dit bien, vous ferez cela en mémoire de moi. Quel homme merveilleux. Oh, je continue quand on lit ces lignes. Ça rappelle ce mot d'une vieille catholique que rapporte Jean Peyrade dans un livre qui m'inspire. C'est une vieille dame que son petit-fils lui demande pourquoi elle va à la messe, puisqu'elle va à la messe comme au marché. Il dit oui, exact. Elle lui répond oui, exactement, comme au marché, mon petit. Pour mon ravitaillement spirituel, oui, oui. Pour y recevoir mon viatique, le pain de vie, oui, le pain de vie sans lequel on ne peut plus avancer. Une belle réponse pour un petit garçon. Alors donc, à 57 ans, Gilbert Cesbron se retourne sur son passé, sur un ton fraternel, c'est à ce moment-là qu'il confesse sa foi dans ce que je crois, dont je vous ai parlé tout à l'heure, paru chez Grasset, c'est plein d'idées simples, les seuls qui soient universels, quoi, puis toute son œuvre romanesque met en scène des victimes du mal, les enfants mal aimés, les femmes délaissées, tout ça dont je vous ai parlé, et il dit « Je me sens chargé des minorités, des exceptions, des laissés pour compte, et pourtant, il croit qu'au commencement était le bien, mais que l'homme, par son égoïsme, a tout détraqué, et il ajoute « On en est arrivé à un désordre effroyable parce que le respect de la vie est refusé. Le respect de la vie, je vous en ai souvent parlé, on le refuse. On tue nos enfants de façon épouvantable. Mais je n'insiste pas, je veux passer dans ce drame épouvantable. Est-ce qu'il faut désespérer? Eh bien, comme Bernanos, Gilbert Cesbron appartient à la race qui ne désespère jamais. Nous n'avons pas le droit de désespérer. Il croit que la vieille devise « liberté, égalité, fraternité » est porteuse de valeurs salvatrices et que les chrétiens comme les athées peuvent l'adopter ou tenter de la vivre. C'est le cri de l'homme, dit-il, trois fois enfermé dans son corps périssable, dans sa solitude, dans une société injuste. C'est trois fois proféré son appel au secours et l'affirmation qu'il vaut bien mieux qu'il n'est. Liberté. Oui, les chrétiens sont libres, car la foi nous donne la liberté dans l'amour. C'est l'amour qui nous rend libres, l'amour de Dieu. Dieu nous aime et nous répondons à cet amour de façon la plus totale. Et ça nous rend libres de nous-mêmes, de nos égoïsmes et de nos bêtises. L'égalité, c'est de considérer les autres égales et même supérieurs à nous. Et la fraternité, qui nous fait tendre la main, tendre le bras, tendre notre argent, tendre tout ce que nous avons, ouvrir nos portes, adopter. Gilbert Cesbron n'est pas l'homme d'une école, d'une partie, d'une idéologie. Il ne peut pas se taire devant le gâchis où se vautre la société occidentale. Et il le dit bien, l'Occident ressemble à un vivier sans eau, à un port sec, un monde très confortablement inviable, et dont les échangeurs, aux sorties des grandes villes, représentent l'idéal et le symbole. Il s'agit que nos chemins se croisent sans jamais se rencontrer. Hein? Quand on voit tous ces spaghettis, là, comme on les appelle, les routes, tout le monde passe, mais ça, on se rencontre pas. Pour Gilbert Cesbron, le christianisme correspond à quoi? À des vérités immémorables et universelles. Le sentons-nous jusqu'au fond de nous-mêmes? Gilbert Cesbron, lui, le professe, sans cesser de s'interroger. Je parle de lui au singulier parce qu'il est vivant dans ses œuvres. Il sait, Gilbert Cesbron, ce que c'est que se remettre en question. Mais il a accordé sa confiance à Jésus-Christ pour toujours. Sa foi concilie le plus exceptionnel avec le plus familier, dit-il, le plus simple avec l'incroyable. Il dit, je n'ai jamais rien écrit de plus, qui le saisisse plus que dans la regarder en face et la mort. Gilbert Cesbron cite le passage de l'évangile de Saint Jean sur l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, puis il écrit, je suis entré au jardin des Oliviers moi-même le 14 mai 1978, quand j'ai appris, c'était à la fin d'un repas, que j'avais un cancer et seulement peu de temps à vivre. Il mourra il y a 20 ans aujourd'hui. C'est à ce moment-là, moi, que je l'ai rencontré après son cancer. Oh, mais je l'ai rencontré la dernière fois. Le regard droit, mais le menton tremblant. Il dit que sa femme a eu le courage de me l'annoncer enfin. Et je jure devant Dieu que je n'ai sur cet instant pleuré que sur elle, ma femme. Sur cette insupportable attente avant d'oser parler, sur cette solitude, cette force et cette faiblesse. Et depuis, je me suis accoutumé à la nouvelle, longue et lente fiançaille avec la mort. Comme j'avais passé ma vie à noter ce qui me traversait le cœur et l'esprit, mais j'ai continué ici. Et il a continué dans ses écrits. C'était de tenter d'aider les autres à vivre. C'est ce que nous essayons de faire à Rencontre spirituelle, puis à tant d'autres émissions à Radio Ville-Marie, de vous aider à vivre, de nous aider nous-mêmes à vivre en travaillant bénévolement. Il se pourrait que ces pages, dit-il, en aident certains à continuer de vivre dans des conditions difficiles et certains autres à les y aider. Ça s'appelle la regarder en face. Il y a de courtes pensée, écrite dans la perspective de la mort, regardée en face dans ce livre. Il s'agit évidemment de cette mort certaine. Comme l'a écrit son éditeur, ce livre est de ceux auxquels il faut revenir souvent. Il écrit que l'on soit croyant ou incroyant, là n'est pas la question, il suffit d'être homme, car pour chacun de nous vient le jour inéluctable où il faut bien la regarder en face, la mort. Voici la fin du voyage, dit Gilbert Cesbron, voici le récif qui se voit de loin, de partout, et qu'aucune brume ne nous dérobe longtemps. Le récif ou le port, le naufrage ou le salut, oui, nous aurons passé notre vie à résoudre ou à contourner chaque problème, Une navigation un peu sinueuse, vue de haut mais très habile. Et pourtant ici, mes compagnons, ni l'astuce ni la science, et l'expérience encore moins, ne vous permettront d'éluder ce mystère majeur, la mort. Nous savions déjà que nul, et pas plus le souverain que le milliardaire, ne l'abordait avec davantage d'assurance que nous autres. Mais de surcroît, le savant génial ou le philosophe universel ne s'en approche différemment. Écoutez bien cela. Lorsque les chercheurs des temps à venir auront démonté tous les mécanismes de la création, il restera cet ultime secret de Dieu. Les génies eux-mêmes abordent la mort comme des enfants qui viennent de naître, tout nus. Il y avait un jardin dans lequel il entra avec eux. Il fallait que le Fils de l'homme passât par cette agonie, cette solitude, par cette tentation aussi. Quand il dit toutefois « Ta volonté, Père, et non la mienne », mais il faut que tout homme y passe à son tour, à sa suite. Et maintes fois, Gilbert Cesbron aura rappelé à temps et à contre-temps que l'homme est une créature de Dieu et qu'il est destiné, au bout de son cheminement terrestre, à partager la vie de Dieu. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez lire Gilbert Cesbron par Michel Barlow aux éditions du Centurion. Il y a un autre Gilbert Cesbron de Michel Barlow, témoin de la tendresse, chez Robert Laffont. Puis il y a Conversation avec Maurice Chavardès aux éditions Stock. Et enfin, il faut lire les livres, comme Le Regarder en face et tous ces autres livres, Ce que je crois de Gilbert Cesbron.